Donc je vais vous présenter une fouille qui a été conduite en 2014 sur Toulouse, rue des Transipons, donc pas très loin d'ici en fait, et qui a duré près de 6 mois. Voilà. Donc, je vais vous présenter l'approche méthodologique de la fouille d'un ensemble de sépultures de crise, l'exemple du 16 août 36 points. Donc, la localisation de la fouille. La fouille. Il y a un problème de compatibilité entre les logiciels. L'emprise de la fouille se situe à l'extérieur des remparts antiques et médiévaux de la ville de Toulouse. Vous voyez un petit point orange ici. Et elle se situe aussi à l'est de la voie antique qui est menée à la porte narbonnaise, donc à l'entrée de Toulouse, à proximité de ce qui sera plus tard. Il y a un gros problème de compatibilité puisque j'ai les diapos qui ne s'affichent pas dans le bon ordre. Comment ? Ouais, le problème, c'est que celui-là arrive. Faire comme ça. On va vous le mettre là, voilà. Bon, on va faire comme ça. Du coup, à la période antique, donc, on a le site qui est à l'extérieur de la ville. Il est aussi à l'extérieur pour la période médiévale. Et à la période médiévale, donc, le site se situe à proximité de ce qu'on appellera le cimetière du château Narbonnais et plus tard le cimetière Saint-Michel à partir du XIIIe-XIVe siècle. Ce site compte donc, occupe 2600 m² et a livré 4 grandes périodes archéologiques. Donc la première grande période concerne l'Antiquité avec des bâtiments du premier avant qui seront détruits vers le quatrième. Un ensemble de sépultures de l'Antiquité tardive donc, qui sont datées du 5e, 6e, ça dépend un petit peu de là où on se situe sur le site. Alors j'essaye de vous trouver des photos, mais c'est un peu compliqué du coup. Ouais, je suis vraiment désolé quoi. Je comprends pas parce que la dernière fois ça fonctionnait quand. Ouais, mais le problème, c'est que comme il y avait des animations avec le PDF, ça va tout écraser. Sinon, j'ai mon ordinateur. Hein, sinon, j'ai le mien. Oh, une petite pause.
Bon, du coup, on va continuer.
Désolé pour ce petit souci technique. Donc, on disait donc notre emprise se situait à l'extérieur de la Toulouse antique et médiévale. Le site donc fait 2600 m² avec 4 grandes périodes, donc notamment la première avec l'Antiquité et un système de bâtiments qui sera détruit au Bas Empire. Un cimetière de l'Antiquité tardive qui se situe essentiellement dans la partie sud de la parcelle, avec des sépultures individuelles. On a par ailleurs une occupation du bas Moyen-Âge, avec un atelier de fonte de cloches du XIVe, qui est lié à l'installation de l'église Saint-Michel. Donc on a sorti un très beau fragment de moule gravé avec on a pu identifier quelques lettres, mais malheureusement on n'a pas pu reconstituer la dédicace sur la cloche. Pour cette même période du bas Moyen-Âge, on a un ensemble funéraire de crise du milieu du XIVe, qui nous est daté notamment par les C14 et par les monnaies de Philippe VI. Et enfin, on a toute la période moderne avec la mise en place du parcellaire. Je vais vous présenter plus précisément le cimetière de crise, donc, qui a livré 45 sépultures individuelles, 32 sépultures multiples. Dans ces 32 sépultures multiples, nous avons identifié 24 sépultures doubles, pour lesquelles les sujets sont inhumés côte à côte sur le dos ou tête bêche, voire carrément l'un sur l'autre. Ces sépultures marient soit deux adultes, soit un adulte et un immature, mais on n'a jamais de sépulture d'immature seule. On a quatre sépultures triples avec le même schéma, côte à côte sur le dos, et toujours des immatures associées à des adultes, et les immatures ne sont jamais seules. Une sépulture quadruple qu'on a eu du mal à identifier car très perturbée. Et enfin, trois grandes sépultures de masse. Ce cimetière de crise, en fait, est délimité par l'emprise qui est marquée en rose. Donc, on voit bien qu'on a un U qui s'aligne sur le parcellaire. Les limites de ce cimetière sont reprises par le parcellaire moderne qui va s'implanter, et on a un cimetière avec un système d'accès ouest-est en gros, et un couloir central qui est vide de sépulture. La méthode de fouille. Donc on a dégagé par niveau chaque squelette avec un enregistrement individualisé des sujets, position, orientation, donc la taphonomie, c'est-à-dire le mode de décomposition et les mouvements des os dans la sépulture. Prise de photos, un enregistrement altimétrique, ainsi que les rapports stratigraphiques des squelettes les uns par rapport aux autres. Tout ça avec un système de photos redressé par un niveau de démontage, et ensuite un démontage des squelettes visibles totalement ou à plus de 80%. Si il y avait besoin, en fait, un nouveau nettoyage avait lieu avant le démontage des squelettes, avec bien sûr un enregistrement photo de tout ça. Donc voilà, pour exemple, le premier niveau de dégagement de la sépulture 3408. Donc sépulture qui a livré un très grand nombre de squelettes. Et voilà le deuxième niveau, après démontage du premier niveau. Donc vous voyez, on voit, c'est très lent. On démonte peu de squelettes à la fois, de façon à pouvoir enregistrer le maximum d'informations pour chaque sujet inhumé dans la sépulture. Les sépultures de masse, donc ces trois grandes structures sont situées à l'extrémité nord de notre de la parcelle et du cimetière dit de catastrophe. Alors, je vais vous montrer ça sur le plan. Hop, elles sont, en fait, les trois grandes sépultures sont au bout du U, en fait. Donc on avait trois structures, la grande fosse 1771 qui est incomplète, mais qui a été recoupée par le sondage INRA, par des fosses modernes et par le bâti moderne. La sépulture 1765 qui est ici, qui est également incomplète parce que recoupée par des puits et des fosses modernes. Et enfin la 3408 qui est ici, qui elle est complète, pour lesquelles on a pu avoir tous les sujets. Dans ces trois fosses, on a un mode d'inhumation qui est totalement uniforme, avec une rationalisation des dépôts et des corps qui sont disposés en rang et tête bêche. On observe néanmoins quelques positions particulières, notamment le long des parois et dans les angles, comme si on avait voulu économiser la place, de façon à vraiment avoir une rationalisation de l'espace et une utilisation maximale des fosses. Et en partie supérieure, on a l'impression que, au final, les fosses étaient un peu trop grande et qu'on commandait de la place, on faisait moins attention au type de dépôt et les corps étaient un peu plus disposés un peu plus aléatoirement. Donc en fait, on pense le dépôt dès le départ et après, quand on se rend compte qu'il y a de la place, c'est moins structuré. Et enfin, on a pu observer qu'on avait des dépôts de sédiments dans ces sépultures entre les corps, dépôts qui sont très localisés et qui interrogent peut-être sur le fait que les manipulants avaient à descendre dans ces fosses pour déposer les corps. Donc ça, c'est une photo de la sépulture 1771, la partie sud, et c'est pour vous montrer la succession des corps et comment sont déposés les corps et comment c'est... Voilà, la rationalisation, en fait, on a bien ces sujets qui sont tête-bêche sur le premier niveau, ensuite le deuxième niveau, troisième niveau et le quatrième niveau. Et là, on voit que sur le dernier niveau, on a des sujets qui sont dans l'autre sens, qui sont plaqués contre les parois. On a même, pour certaines fosses, des sujets qui sont assis dans les angles ou plaqués de champ contre la paroi. Donc l'étude paléopathologique de cette collection est primordiale afin d'éliminer l'hypothèse d'un conflit violent et de pouvoir confirmer, comme on se situe au milieu du XIVe siècle, qu'on est bien sur un cimetière dit de peste. On a pu, cette collection aussi nous renseigne sur l'état sanitaire d'une population du milieu du XIVe siècle. Avec, par exemple, pour les sujets adultes de la 3408, des marqueurs de stress qui ont été observés assez faiblement, avec quelques exemples d'hyperostose porotique ou de criva orbitalia. On a quelques traumatismes, avec on voit une fracture sur un avant-bras. On a une présence d'arthrose qui est assez bien représentée. Et par contre, les lésions d'origine infectieuse sont assez peu fréquentes. Du coup, pour cette collection, la problématique, c'était de savoir pourquoi autant de sujets dans ces fosses à cette période. Donc forcément, en 1348, on pense à la Grande Peste Noire. Du coup, comment arriver à identifier ce fléau. Donc on a lancé une étude ADN en partenariat avec l'Université de Bordeaux et le Max Planck Institute en Allemagne, de façon à pouvoir identifier la bactérie Yersinia pestis qui est parfois conservée qui peut être conservé notamment dans les dents. Donc on a fait des prélèvements de dents qu'on a envoyés. Donc je peux vous assurer qu'il s'agit bien de la peste, puisque j'ai eu les premiers résultats la semaine dernière. Et donc on est bien sur un cimetière de pestiférés. On a lancé une deuxième étude ADN sur, par contre, l'ADN ancien, et notamment dans une problème qui interroge plus une problématique régionale, notamment sur les mouvements de population entre l'Antiquité et le bas Moyen-Âge. Donc cette étude se fait en partenariat avec l'Université de Toulouse, l'Université Paul Sabatier et plus particulièrement le laboratoire Amis. Et enfin, cette étude ADN des populations aussi a pour but d'interroger sur les liens de filiation éventuels qu'on peut avoir, notamment dans les petites sépultures. Est-ce que les individus immatures retrouvés avec les sujets adultes ont une filiation? Voilà. Ce que je peux vous dire aussi sur cet échantillon, c'est qu'on a comparé les courbes de mentalité des fosses du cimetière et on s'est rendu compte que celles-ci sont totalement identiques aux courbes de mortalité qu'on a pu observer sur les cimetières de Ehresfeld, Dreux et Barcelone, pour lesquels la peste est avérée. La seule différence qu'on a, c'est qu'en général, dans les cimetières de pestiférés, on a une population un sexe ratio qui est en gros de 50%, 50% d'hommes, 50% de femmes. Ici, la particularité qu'on n'arrive pas encore vraiment à expliquer, c'est qu'on a 70% de femmes dans nos sépultures. Donc, on sait qu'on a un hôpital qui est lié à Sainte-Catherine à proximité, c'est-à-dire à quelques mètres. Est-ce que la population inhumée dans ce cimetière de catastrophe est liée donc à l'hôpital Sainte-Catherine qui était géré et pour lesquels, dans lequel il y avait beaucoup de femmes? Voilà, ça va interroger. On a essayé de chercher dans les archives, mais malheureusement, les archives du 14e pour Toulouse n'existent plus. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce site. Et encore désolé pour le petit problème technique.